Et nous retrouvons Marion pour une nouvelle chronique culture par chez nous. Marion, bonjour.
Salut Rodolphe.
Chaque mercredi de l'été, Haute-Corrèze Communauté et Radio Vassivière vous font découvrir des trésors de notre territoire, des sites, des événements, des associations ou des initiatives culturelles qui font vibrer la Haute-Corrèze et que nous souhaitons vous partager. Pour cette nouvelle chronique culture par chez nous, Marion, nous allons pousser les portes du musée du Pays du Sel.
Exactement. Le musée du Pays du Sel est le premier musée de notre territoire à réouvrir ses portes. Après des mois de fermeture, nous n'avons pu résister au plaisir d'aller de nouveau le découvrir et le parcourir. Nous remontons à pied dans l'étroite rue Michelet, passage devant la tourelle de granit qui nous transporte déjà dans l'atmosphère du XVIIIe siècle, arrivé dans la cour de l'hôtel Bonneau de Bay. Nous montons quelques marches, nous voilà devant la lourde porte de bois. Nous frappons. De l'autre côté, des bruits de pas, on vient nous ouvrir. Maëlique Chauvin, la responsable du musée du Pays du Sel, apparaît dans l'embrasure de la porte. Souriante et entraînante, elle nous invite à rentrer. Début de notre plongée ethnographique dans les arts et traditions populaires de notre territoire.
Ethnographie, arts et traditions populaires, dans quoi nous embarques-tu, Marion ?
Pas de panique, il suffit de suivre Maëlique et de se laisser porter par ses explications. Le musée du Pays du Sel, c'est en réalité quatre bâtiments et une immense collection qui nous raconte la manière dont on vivait sur ce territoire il y a encore quelques décennies. Les savoir-faire, la vie quotidienne, les croyances, les légendes, les fêtes, tout ce qui constituait la vie sur ce territoire, mélange d'âpreté et de beauté. À l'hôtel Bonneau de Bay, où nous nous trouvons, on part à la découverte de tous ces métiers artisanaux qui ont fait vivre notre territoire et ses habitants des décennies durant. Nous sommes au début du XXe siècle. Devant nos yeux, des outils sur le point de s'animer pour nous rappeler les gestes et savoir-faire passés emportés par la vague de la modernisation.
On voit la modiste, le forgeron, on visite le travail de la paille, également la bujade, c'est-à-dire la salle de la lessive.
Juste à côté de l'hôtel Bonneau de Bay, dans la maison à tourelles du 18 rue Michelet, ça sent l'encre, le bois et la pierre. La sueur aussi en été quand s'y déroulent les ateliers. Les immenses presses lithographiques que l'on voit fonctionnent encore. Un trésor inégalable. Même les étudiants des Beaux-Arts de Limoges viennent ici pour apprendre cette fascinante technique de l'impression sur pierre.
On a également une imprimerie d'époque, une imprimerie typographique qui n'est pas en état de marche, et l'autre, l'imprimerie lithographique, qui nous permet de recevoir chaque année un résident, un artiste contemporain qui réalise une exposition d'œuvres lithographiques et qui nous permet de proposer des stages en lithographie.
Dans une petite rue toute proche de l'atelier de lithographie, aux 4 rues de la Montagne, on pénètre dans une modeste maison usselloise du XVIIIe siècle. Près du Cantou, la cuisine se prépare. On s'attend à sentir des odeurs de soupe qui se mêleraient aux effluves du cuir prêt à être travaillé.
La maison Montcourrier-Beauregard, qui est une maison du XVIIIe siècle, qui permet de découvrir un intérieur d'époque et un atelier de bourrelier.
Dernière entité de ce musée, un peu à l'écart des trois autres, la chapelle des pénitents. C'est un des endroits préférés de Maëlique. Dans cette chapelle du XVe siècle, on se plonge dans l'univers des rites et des croyances qui ont animé et peuvent animer parfois encore ce territoire. Du berceau à la tombe, on suit les cérémonies et coutumes qui ont rythmé la société.
J'ai une affection particulière pour la chapelle des pénitents qui est un peu laissée de côté parfois par rapport à l'hôtel Bonneau de Bay, un petit peu éloignée du centre-ville et qui mérite vraiment d'être découverte. C'est une chapelle de la fin du XVe siècle qui est un véritable bijou d'art religieux qui comporte en plus des dépôts faits par les communes voisines avec des statues de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance et que je vous invite à découvrir.
Arrivée il y a 4 mois à la direction du musée du Pays du Sel, Maëlique s'est laissée charmer par ce musée en 4 entités.
Une histoire d'amour, qu'est-ce qui lui a plu chez lui ?
Non seulement elle a été séduite par ce musée composé de 4 bâtiments historiques, où l'on peut aller de l'un à l'autre en changeant d'ambiance, et séduite par ses collections qui racontent tant de choses sur la manière dont les hommes vivaient ici. Mais elle est surtout tombée amoureuse de la manière dont ces collections sont mises en scène. Une scénographie qu'elle appelle « scénographie immersive », car on s'y plonge avec délices pour faire comme si nous y étions.
J'ai été séduite par la scénographie immersive puisque j'avais l'impression de me projeter dans un voyage à travers le temps et de découvrir vraiment la vie d'autrefois.
Une remontée dans le temps, mais pas que, car cette scénographie aime dialoguer avec l'art contemporain. Des artistes invités en résidence, un atelier de lithographie vivant, des tapisseries d'art contemporain. Certes, on se plonge dans le passé, mais pour mieux investir le présent et se plonger avec créativité vers l'avenir.
J'ai apprécié le côté aussi contemporain, tout le travail que nous faisons avec les artistes au quotidien, avec les résidents que nous accueillons chaque année. Cette année, ce sera Louise Erat, qui est diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Limoges, et avec les artistes lithographes du musée et l'association EMU.
Et pour que l'on comprenne bien cette scénographie immersive qui dialogue avec l'art contemporain, nous voilà partis à la suite de Maëlig dans les étages du musée.
Nous passons par le grand escalier principal en pierre, dont les murs sont garnis de tapisseries à la fois contemporaines et du XVIIIe siècle. Au premier étage, nous pouvons découvrir la salle du sabotier et du tisserand. Au deuxième étage, vous pouvez voir la salle de la moisson, du travail de la paille et du charpentier. Nous passons par la salle des lits clos, où nous découvrons des lits clos d'époque venant de Chalon-d'Aix. Nous sommes redescendus d'un étage pour arriver dans le café. C'est un café d'entre-deux-guerres avec un bar zinc art déco, une table de bistrot où des habitués semblent être prêts à s'attabler. Le jeu de cartes est prêt, la bouteille est prêt, de vin rouge est prête à être ouverte. On découvre sur le comptoir des verres à absinthe, des bouteilles d'Avez et de Salers. Et puis, sur le meuble au fond, le buste de Joseph Salagna qui était propriétaire d'un café boulevard Montparnasse à Paris, un des Corréziens expatriés dans la capitale parisienne. C'est un café que j'apprécie particulièrement, ma pièce du musée préférée, parce que nous sommes vraiment immergés dans cette atmosphère, une atmosphère très feutrée où on a envie de s'asseoir et de profiter de la vie en sirotant un verre. Nous arrivons dans la salle de la modiste où effectivement nous avons une scénographie immersive, c'est-à-dire que nous nous retrouvons comme dans la rue, devant la vitrine d'un magasin d'une modiste à la mode Alice. Nous découvrons une collection de chapeaux en vitrine et puis l'intérieur de la boutique. Tout ceci pour donner l'impression que nous sommes réellement dans une boutique d'autrefois. Là, je vous montre les réserves dans combien.
Maëlig nous a aussi fait sortir du classique parcours du musée pour aller découvrir les réserves. C'est là que sont conservés les objets du musée qui ne sont pas exposés. Et c'est là que Maëlig a passé ses semaines de confinement, à dépoussiérer, examiner, documenter, protéger et ranger ses objets. Chaque jour, elle en faisait connaître un nouveau au grand public par une photo postée sur Facebook, sur la page Facebook du pôle événementiel et culturel de la ville d'Ussel. Son préféré ? Un uniforme qui lui a murmuré plein d'histoires.
Un uniforme de chasseur à cheval d'août 1914, qui est composé d'un pantalon cintré avec des côtés en cuir, d'un dolman, c'est-à-dire une veste cintrée avec des galons dorés, et d'un képi. Un petit écusson qui est placé sur le côté de la veste nous permet de savoir que ce soldat avait gagné un concours de tir. La couleur du képi, qui est encore rouge garance, nous indique que cet ensemble ne peut pas dater d'après août 1914, puisque c'est après, c'était du bleu qui était porté par les soldats. Un seul objet peut nous révéler énormément sur l'histoire.
Mais ça y est, le déconfinement est là. On peut sortir des réserves et de l'ombre pour passer à la lumière. L'heure de la réouverture du musée au public a sonné.
J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons réouvert hier, le mardi 9 juin.
Mais Marion, dis-nous tout, qu'est-ce qui est prévu ? Comment cette réouverture se fait ? Dans quelles conditions ?
Dans un premier temps, le musée est ouvert de 14h à 18h, du mardi au samedi. La chapelle des pénitents, quant à elle, s'ouvre seulement sur rendez-vous. À partir du samedi 27 juin, les semaines s'élargissent. Le musée sera ouvert, de 14h à 18h toujours, mais cette fois, tous les jours, sauf le mardi. Bien sûr, toutes les mesures de précaution ont été prises pour accueillir le public dans les conditions les plus sécurisées possibles.
Nous avons tout mis en place pour vous accueillir en toute sécurité. Les masques sont obligatoires pour les visiteurs aussi bien que pour les agents d'accueil. La visite se fait dans un sens unique, avec un parcours fléché. Vous avez à votre disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie du bâtiment. Tous les livrets de visite et les flyers ne seront pas réutilisés pour chaque visiteur. Ils ont un usage unique. Vous n'avez donc aucune inquiétude et vous pouvez visiter le musée en toute sérénité.
Au-delà de la simple visite du musée, un beau programme se dessine pour l'été et la rentrée. Expositions, résidences, conférences. Attention, ouvrez bien vos oreilles et sortez les agendas. Côté exposition, c'est l'artiste Aurore Salomon qui ouvre le bal avec une présentation de ses lithographies du 10 juillet au 17 août. Venue en résidence l'an passé, son travail reflétera son immersion dans la vie uccelloise. Aux lithographies d'Aurore Salomon succéderont à partir du 19 août les estampes de la collection Alain Gourceau, une exposition proposée par l'Association des Amis de l'Imprimerie du Musée. Puis, la rentrée, en septembre, sera placée sous le signe de la photographie. Au début du XXe siècle, la photographie prend son essor en Haute-Corrèze. Scènes de vie, petits patrimoines, fêtes, venez découvrir ces instants saisis en noir et blanc qui racontent un peu de la vie d'ici, autour des années 30. Côté conférence, le menu est tout aussi fourni et appétissant. Je laisse Maëlie vous en parler.
Nous avons décidé de proposer davantage de conférences cet été pour combler vos envies de culture. Dès le 1er juillet, vous aurez une conférence sur Henri Crouzet, artiste, peintre et photographe briviste. Le 8 juillet, une conférence sur le matériel photographique d'Antoine Chaderon, sur lequel nous sommes en train de travailler en ce moment pour une exposition au printemps 2021. Et par la suite, des conférences de Jean-Loup Lemaitre et de Nicole Lemaitre, dont les dates vous seront bientôt communiquées. Le 19 août, une conférence sur les boissons mythiques corréziennes. Et puis, le 15 septembre, une conférence sur les magasins d'autrefois à Ussel, avec des objets tirés des réserves du musée et des cartes postales d'époque.
Si vous n'avez pas du tout suivi ou eu le temps de tout noter, tout cela sera à retrouver sur la page Facebook du pôle événementiel et culturel de la ville d'Ussel. À la fin de cette découverte du musée aux côtés de Maëlig, une question brûlait les lèvres. Avec son enthousiasme, sa passion sensible pour ce musée plein de charme, qu'avait-elle envie d'y développer pour les années à venir? Sa réponse a mis tous mes sens en éveil.
J'ai envie de travailler autour des cinq sens. J'ai déjà prévu des dispositifs de textiles à toucher. Pour l'odorat, on pourrait imaginer des senteurs. On a à notre disposition des essences de lavande. Nous avons des paquets de tabac. On pourrait imaginer une scénographie encore plus immersive en faisant appel à tous ces sens. Pour le goût, nous allons proposer à l'aide de nos conférences, en participant également aux apéros art et histoire, de découvrir nos collections aussi d'une manière plus... en faisant appel à nos papis. Louis sera aussi mis en valeur à travers des activités et des balades musicales.
Des balades musicales, quelle belle idée! Et ce serait parfait pour une chronique radiophonique.
En attendant ces balades musicales, as-tu trouvé une musique pour conclure cette chronique et cette rencontre avec Maëlig, nouvelle responsable du musée du Pays d'Ussel?
J'ai eu envie d'une musique qui résonne avec le petit bistrot, la pièce préférée de Maëlig dans son musée du Pays d'Ussel. Envie de le faire revivre le temps d'une chanson.
Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire. Les jours de vagalame ou les soirs de déprime, près de quelques artistes amoureux de la rime, je vide de trois verres en parlant de peinture, d'amour, de chansonnettes et de littérature. Il y a là, bien sûr, des poètes, le prince tirant sur sa bouffarde, l'ami Georges Brassens. Il y a Prel aussi, et Léo l'anarchiste. Je revis avec eux une célèbre affiche. Traîner vient nous chanter une folle complainte, cependant que Verlaine et Rimbaud à l'absinthe se ruinent doucement en évoquant Villon, qui rôde près du bar et des mauvais garçons. René Fallet me parle de ses touches qui le font frissonner quand il pêche à la mouche, du vin et des femmes et surtout des copains qui font la vie plus belle ou des espoirs plus loin. Il y a Boris Vian, mon passant et bruant, écoutant les histoires d'un Coluche ni d'Aran. Je m'assois avec eux pour quelques libations, entouré de mes proches, les Reiser et les tontons. Nous rigolons des cons avec Frédéric Dard, souvenir de prison avec le vieux Boudard. Audiard et puis Pagnol s'allument au Pernod. Je lève mon verre à Robert Doisneau, Gainsbourg est au piano jouant sa javanaise et nous chante l'amour qu'il appelle la baise. De Verre est là aussi dans un coin, il trinque avec Bernard Dimet, avec Bobby Lapointe. Assis autour du poêle, il y a Jacques Rigaud, Franquin, Jean-Pierre Chabrol, Prévert et son égo. Parlons de suicide, Maurice René arrive. La mort est quelquefois tout un art de vivre. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux. Je l'avoue, désolé, manque de femme un peu. Mais les amis, les potes qui le hantent toujours savent aussi bien qu'elle ce que c'est que l'amour. Ils sont bien plus vivants dans ma mémoire au moins que la majorité. Et contemporains. Si demain la faucheuse vient me prendre la main, pourvu qu'elle me conduise au bistrot des copains.